Science en question par Étienne Klein. Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver en cette rentrée pour une nouvelle émission qui s'intitule « Science en question ». Comme vous le constatez, elle a le même horaire que feu la conversation scientifique, 16h tous les samedis, ainsi que le même générique musical. Mais deux choses ont été modifiées. D'abord le titre « Science en question », qui veut indiquer que nous veillerons davantage à répondre à des questions de science d'une façon qui soit la plus pédagogique possible. Nous expliquerons ce que les scientifiques savent et comment ils sont parvenus à le savoir. Toutes les connaissances scientifiques étant par nature incomplètes, nous évoquerons également les questions qu'elles laissent pour l'instant sans réponse et nous raconterons ce que les chercheurs font pour tenter d'y répondre. La seconde nouveauté dans cette émission tient en une chronique d'un petit quart d'heure intitulée « Le pourquoi du comment » qui sera dite en fin d'émission par Bruno David. Bruno David est, tenez-vous bien, le président du Muséum National d'Histoire Naturelle. Je lui souhaite d'emblée la bienvenue et je le remercie pour son précieux renfort. Je sais bien que d'aucuns parmi vous vont me demander quel est l'anagramme du titre de l'émission. Eh bien qu'ils sachent sans plus attendre qu'il y a une anagramme de science en question qui sonne comme un défi. Cet anagramme, c'est « enceinte conquise ». Alors oui, prenons là au sérieux et avouons que nous aimerions que les enceintes de l'appareil grâce auquel vous nous écoutez soient conquises par les paroles dont elles seront les relais amplificateurs jusqu'à vos oreilles. Ce serait déjà ça, et ce serait encore mieux si vos propres oreilles étaient également conquises. Pour commencer, nous allons nous poser cette question à la croisée des sciences et de la politique. Quel avenir pour la recherche européenne ? Galilée, Newton, Maxwell, Boltzmann, Planck, Bohr, Einstein. D'un point de vue historique, la physique moderne a à voir de très près avec l'Europe. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Quels sont les atouts et les faiblesses de la recherche européenne par rapport à celle des autres continents, en physique, mais aussi dans toutes les autres disciplines scientifiques ? Quels défis doit-elle relever ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Pierre Bourguignon. Bonjour.
Bonjour, Étienne.
Vous êtes mathématicien, vous avez été chercheur pendant 44 ans au CNRS, ce qui est une façon indirecte de dire votre âge. Vous avez été pendant près de 20 ans le directeur de l'Institut des hautes études scientifiques, le fameux IHES. Et en 2013, vous avez été nommé président du Conseil européen de la recherche, le ERC, poste que vous avez occupé jusqu'au 31 décembre 2019. Après quoi, vous avez été rappelé pour être président par intérim pendant une année entière, qui vient de s'achever, de ce même organisme. Alors ma première question, puisque avant de parler de politique européenne, j'ai le plaisir d'avoir en face de moi un mathématicien qui se définit comme géomètre. C'est un drôle de terme parce que étymologiquement la géométrie c'est la mesure de la Terre et pendant plusieurs millénaires le travail des géomètres a été de comprendre l'espace sensible qui nous entoure grâce au concept de la géométrie qu'on apprend à l'école, la géométrie euclidienne. Or il y a d'autres géométries.
Oui, alors en fait, c'est cette influence de la langue et de la dénomination sur le contenu est très remarquable dans le cas de la géométrie, puisque pendant longtemps, beaucoup de gens, et d'ailleurs y compris des philosophes célèbres comme Kant, ont considéré que la géométrie euclidienne était absolue. Et donc la fin du 19e siècle qui est la fin du 18e siècle pardon, qui est l'apparition de la possibilité d'autres géométries a été un tournant historique extrêmement important. Plusieurs personnes devraient être citées, mais je pense que c'est important de mentionner Carl Friedrich Gauss, qui est le premier à montrer que, en fait, quand on s'intéressait à des surfaces, on pouvait, disons, définir de façon intrinsèque, c'est-à-dire simplement par la façon dont la surface se décrivait localement, qu'elle pouvait être courbée. Alors que jusqu'à maintenant, la courbure était toujours considérée comme une situation relative d'une hypersurface dans l'espace, d'une surface dans l'espace à trois dimensions. Et puis après, ça s'est pas arrêté là, puisque au milieu du 19e siècle, Riemann a vraiment fait un saut extraordinaire.
Très utile aux physiciens.
Par la suite, Riemann a fait énormément de choses, bien qu'il soit mort très jeune, mais avec une fécondité extraordinaire dans beaucoup de champs des mathématiques. mais en particulier pour la géométrie, puisque dans le cadre de son habilitation, donc un exercice presque de style, il a écrit un texte totalement novateur, qui est les hypothèses sur lesquelles est fondée la géométrie, pour montrer qu'en fait on pouvait définir des géométries beaucoup plus générales que la géométrie habituelle, euclidienne, et en particulier montrer que un invariant extrêmement important permettait de les distinguer de la géométrie euclidienne, qui était ce qu'on appelle la courbure. Alors cette courbure, comme je l'ai essayé de le mentionner, avait été détectée par Gauss dans le cas des objets à deux dimensions, dans le cas des surfaces. Le prix à payer de ces généralisations par Riemann, avoir accès à ces géométries beaucoup plus générales, c'est que dès qu'on monte en dimension, 3 dimensions, 4 dimensions, les mathématiciens ne se donnent pas de limite pour ça, le concept de courbure devient beaucoup plus complexe, beaucoup plus compliqué. C'est un objet mathématique très bien défini, mais par exemple déjà à 4 dimensions, il faut se donner 20 composantes à l'objet qu'il décrit. Donc ça veut dire que c'est un objet vraiment très compliqué. Et alors peut-être pour relier à la physique, dont je sais que pour vous elle est votre vie normale, la chose qui a été extraordinaire, c'était que cette généralisation par Riemann s'est révélée au cœur de la relativité générale. Et alors la jonction que je voudrais faire entre les deux pour montrer que cette idée que la façon dont la science se développe est linéaire et nécessaire est une idée fausse. En fait, il y a constamment des faux pas et puis on rattrape et puis en fait on se rend compte que ce qu'on a fait était beaucoup plus que ce qu'on croyait avoir fait. Et donc le concept de courbure à la base de la relativité générale est ce qu'on appelle la courbure dite de Ricci, qui a été introduite par un mathématicien italien, Gregorio Ricci Courbastro, en 1904. Et en fait, qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Comme la courbure de Riemann était trop compliquée, il a essayé d'extraire de la courbure de Riemann quelque chose de plus simple. Et en fait, il avait des idées très géométriques pour faire ça. Et donc, il a introduit ce qu'on appelle toujours aujourd'hui la courbure de Ricci. Et ce qui est extraordinaire, c'est que sa motivation géométrique pour faire ça s'est révélée à peu près totalement inutilisable et sans intérêt. Mais de là est née la chose fondamentale, qui est que la courbe de Ricci est ce qui est au cœur, enfin même Einstein dit c'est l'équation d'Einstein qui régit la relativité générale, est un palais avec deux ailes, une aile en marbre impérissable et une aile en marbre inférieur. Et l'aile en marbre impérissable, c'est la courbe de Ricci.
C'est celle des mathématiques. Voilà, et souvent, dans vos travaux, Jean-Pierre Bouillon, j'ai lu quelques-uns de vos articles, vous connaissez très bien l'œuvre de Henri Poincaré, grand mathématicien, et vous avez cité dans le titre de l'un de vos articles cette phrase de Poincaré, « La mathématique est l'art de donner le même nom à des choses différentes ». Est-ce que ce que vous venez de dire est une illustration de cette façon de définir les mathématiques ?
Oui, oui et non. C'est-à-dire, si vous voulez, pour moi, les mathématiques, c'est la science des structures. Or, on peut avoir une description de situations différentes dont on se rend compte au bout d'un moment qu'en fait, elles sont régies, elles sont déterminées par la même structure. Et du coup, du point de vue du mathématicien, si on est capable de décrire cette correspondance, de fabriquer ce dictionnaire, alors on a ce phénomène que, en fait, on parle de la même chose, mais dans des termes très différents. Et ces termes peuvent être très exotiques l'un à l'autre, c'est-à-dire certains peuvent donner l'impression d'être très algébriques et d'autres beaucoup plus géométriques. Donc cette phrase de Poincaré, enfin cette définition des mathématiques de Poincaré, moi je la trouve toujours extraordinaire. D'abord parce que elle montre, moi je suis pas platonicien, donc je considère que les mathématiques c'est une construction humaine. Et donc, je trouve que ça veut dire que dans la langue, on peut en fait parler de mathématiques identiques, mais en fait dans des situations qui, quand on les regarde comme ça, quand on les décrit, elles ont l'impression d'être étrangères l'une à l'autre. Évidemment, comme toujours, quand on a des langues étrangères, ce qui est décisif, c'est le dictionnaire. Et donc, il faut fabriquer ce dictionnaire, et quelquefois, c'est un exercice difficile.
Bon, on pourrait passer toute l'émission à parler de mathématiques, Jean-Pierre Bourguignon, mais avant qu'on parle de l'Europe et de la recherche, en vous lisant, j'ai appris un théorème absolument fascinant de géométrie euclidienne, plane, qui date de 1899, qui a été démontré par un mathématicien anglais qui a fait sa carrière aux États-Unis, qui s'appelait Frank Morley. C'est un terme de géométrie tout simple, mais ça m'étonne que 2000 ans après Euclide, même plus de 2000 ans après Euclide, il y a encore des théorèmes qu'on puisse démontrer dans cette géométrie qui semble si naturelle. Alors, si les auditeurs veulent comprendre de quoi il s'agit, il suffit de tracer sur une feuille de papier un triangle quelconque, de diviser chacun
quelconque,
des angles...
Très important, quelconque.
Quelconque, n'importe quel triangle. On divise chacun des angles du triangle en trois parties égales, c'est-à-dire qu'on trace les trisectrices de chacun des angles, et on constate que si on intersecte ces trisectrices deux à deux, alors on obtient toujours un triangle équilatéral. Ça semble complètement miraculeux. D'ailleurs, on parle du miracle de Morley, c'est un théorème qui a fasciné votre collègue Alain Cohn. Qu'est-ce que ça dit des mathématiques que on puisse encore démontrer des théorèmes dans un cadre conceptuel qui semble parfaitement bien connu?
Oui, alors d'une certaine façon, c'est très bien que vous mentionniez Alain Cohn dans ce contexte, parce que Alain est un de ceux qui a justement montré que ce théorème, en fait, tel que vous l'avez décrit, et c'est absolument justifié de le décrire de cette façon, on peut en donner une description complètement différente et qui en fait est une description totalement algébrique, dans lequel on parle plus du tout de triangle, plus du tout de trisectrice, ni de choses de ce genre-là. Et en fait, d'ailleurs, pour la démonstration la plus simple, la plus transparente, la plus efficace, elle est quand on n'habille pas ce théorème d'habit géométrique. Mais c'était un exemple superbe, en fait, de cette situation où ce qui était important, c'était de comprendre quelle est la structure derrière ce résultat, qui évidemment, quand on le regarde en géométrie euclidienne, est complètement sidérant.
Bon, venons-en à l'aspect plus politique des choses. Vous avez donc été le directeur de l'ERC.
Président.
Président, pardon. Président de l'ERC, qui a été construit en 2007, je crois. Et est-ce qu'on peut le définir? Quelles sont ses missions?
Alors, d'abord, je crois qu'il faut comprendre que le soutien à la recherche par la Commission européenne a été une longue aventure. Elle a commencé très tôt, mais dans un contexte extrêmement limité, parce que, comme toujours, la Commission européenne ne peut faire que les choses qui lui sont autorisées par les traités. C'est ça le cadre de développement des actions européennes. Et pendant longtemps, la recherche n'était pas une responsabilité partagée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça n'était pas une responsabilité partagée? Ben, ça veut dire en particulier qu'il n'était pas possible à la Commission européenne de financer des projets individuels. Les projets qui étaient financés devaient répondre à des missions de la Commission européenne, comme le renforcement de la cohésion européenne, donc le soutien à des réseaux, ou le soutien au développement de la richesse, donc à partir des relations entre le monde académique et le monde industriel. Donc c'était le contexte dans lequel les programmes cadres que la Commission européenne a lancés très tôt, il y a presque 40 ans maintenant, devaient s'insérer. Donc leurs actions étaient parfaitement encadrées. Et puis les chercheurs, très vite, moi la première fois où j'ai entendu parler de la possibilité d'avoir un Conseil européen de la recherche, c'est en 1995. À ce moment-là, j'étais président de la Société mathématique européenne qui venait de naître. Elle était née en 1990. Eh bien, on dit, mais il faut absolument qu'on arrive à pouvoir financer au niveau européen des projets de recherche individuels. Donc ça supposait un changement des traités. Ça a été acquis par le traité de Lisbonne, qui est devenu effectif en 2007. Et donc, il y avait eu une longue période difficile, parce que tous les pays n'étaient pas convaincus. Paradoxalement, d'ailleurs, parmi les pays qui en bénéficient beaucoup, comme la Grande-Bretagne, ont hésité longtemps. Finalement, ont défendu l'idée qu'il devait y avoir un ERC, un Conseil européen de la recherche. Mais l'Allemagne, par exemple, n'était pas du tout favorable. Pensait qu'ils avaient tous les outils nécessaires, qu'ils n'avaient pas besoin d'un outil à l'échelle européenne. Toujours est-il que finalement, en 2007, a été lancé le Conseil européen de la recherche comme une partie du programme cadre. Et la part qu'il a dans le budget avait été à peu près constante, c'est de l'ordre de 17% du budget du programme cadre. Donc c'est quand même une somme assez significative dans le programme cadre qui vient de démarrer, qui s'appelle Horizon Europe. Ça veut dire que l'ERC va avoir 16 milliards d'euros sur 7 ans. Donc on pourra financer de 1000 à 1200 projets par an. Donc l'objectif, c'est de financer des projets de recherche, mais depuis le début, c'était ça la volonté des chercheurs, nous avons toujours, l'idée, c'était d'inciter les chercheurs à être le plus ambitieux possible, a proposé des projets à haut risque et à haut gain, comme on dit, high risk, high gain. Et pourquoi? Parce que on voulait que, puisqu'on donnait aux gens des moyens significatifs sur 5 ans, qui est une période, une durée vraiment qui permet de faire un travail ambitieux, donc il y avait aussi cette acclimatation de la communauté scientifique de se dire, ça c'est un programme qui a vraiment l'ambition d'être ce programme, comment dire, qui permet des choses un peu exceptionnelles. Et une des choses qui a été décidée par le conseil scientifique, qui a la responsabilité de définir le fonctionnement, qui est aussi une originalité certaine dans le contexte de la Commission européenne, eh bien, c'était très tôt la volonté de donner des moyens très significatifs à des jeunes chercheurs. 2/3 de ces moyens vont à des chercheurs qui ont moins de 40 ans. Et dans un certain nombre de pays, l'idée que des jeunes chercheurs aient l'autonomie de développer leur propre projet est révolutionnaire. Parce que dans un certain nombre de pays, c'était le patron qui déterminait ce que tout le monde devait faire. Et donc ça, c'est pas ça notre logique. Notre logique, c'est de donner la possibilité de développer des initiatives, de développer des équipes, d'apprendre ce que c'est que le travail de diriger une équipe très tôt. Et donc voilà, donc on répartit à peu près, comme je l'ai dit, 2/3 de nos moyens vont à des jeunes chercheurs. Et du coup, l'ERC s'est établi au fur et à mesure des années. On vient de dépasser le 10 000e lauréat ou lauréate de l'ERC. C'est établi comme une espèce de programme de référence sur la qualité et sur l'ambition et la prise de risque.
Mais est-ce que le concept de recherche européenne existe? Parce que on voit bien que la recherche, il y a de la recherche en Europe, mais souvent on présente les recherches des différents pays comme étant en compétition les uns avec les autres.
Non, mais alors, d'abord, la notion de compétition dans le contexte de la recherche scientifique c'est banal. C'est-à-dire que les chercheurs sont toujours en compétition. La différence avec la compétition économique, c'est que cette compétition n'est pas séparable de la coopération. C'est-à-dire, on est constamment dans un système où, effectivement...
De compétition, comme on dit.
Oui, alors on peut fabriquer des mots pour ça, mais ça veut dire quand même que les relations entre chercheurs, entre communautés scientifiques différentes sont un élément décisif pour le progrès de la recherche. Et donc, je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. Mais en ce qui concerne la recherche européenne, peut-être trois remarques que je vais faire à son propos. La première, c'est que d'abord, la recherche, l'Europe est incroyablement diverse. Elle est diverse par les cultures qui sont sous-jacentes. Il y a quand même beaucoup de pays européens qui ont une tradition de recherche certaine et qui remonte vraiment à plusieurs siècles. Vous mentionniez des chercheurs qui étaient un peu partout. Comme mathématicien, par exemple, la contribution de l'école polonaise a été incroyable. Mais on pourrait en citer d'autres. La contribution de la communauté hongroise a été considérable, etc. Donc ça, c'est la première chose, c'est la diversité. La deuxième chose, c'est malheureusement, alors ça c'est aussi, je parlais de la diversité culturelle et de contenu et historique. Et il y a une autre diversité qui est les niveaux de financement très variables d'un pays à l'autre. Et il y a un certain nombre de pays qui font des investissements dans la recherche très significatifs en Europe, mais il y en a d'autres qui en font beaucoup moins. Et donc créant des conditions de travail très différentes d'un pays à l'autre. Et je dois dire, juste un petit codicille à cette chose, dans les dernières années, beaucoup de pays ont éprouvé le besoin, pour des raisons parfaitement justifiables, d'augmenter le nombre d'étudiants accédant à l'enseignement supérieur. Mais souvent, ça s'est fait sans augmenter le nombre de professeurs. Donc la conséquence mécanique, c'est que les professeurs doivent enseigner plus. Et à un moment, si on enseigne plus, on recherche moins. Même si vous êtes enseignant-chercheur, à un moment, les journées en 24 heures, il y a un moment où on arrive à un butoir. Donc là, récemment, il y a quand même une sorte d'érosion du temps disponible pour faire de la recherche. Et puis la troisième composante à propos de la recherche européenne, qui est une réalité, c'est que là maintenant, depuis 20, 30, 40 ans, il y a une circulation très naturelle, en particulier pour les jeunes chercheurs, entre les différents pays, entre les différentes écoles, etc. Donc là, pour la génération actuelle des chercheurs, en particulier des jeunes chercheurs, d'une certaine façon, l'environnement européen est une chose naturelle. Et comme exemple, je voudrais donner ça, c'est que pour moi, pendant longtemps, je rencontrais mes collègues, je parle de, en tant que mathématicien là, je rencontrais mes collègues européens aux États-Unis. Et ben maintenant, après ces années, c'est complètement naturel. Il y a vraiment une vie européenne réelle. Et un exemple que je peux donner comme mathématicien, c'est que finalement, il y a une société mathématique européenne qui a été créée en 90. Elle vient de fêter ses 30 ans. Moi, j'ai été le deuxième président de cette société et qui fait énormément de choses et qui montre que c'est un espace complètement naturel. Donc, vous voyez, ces trois aspects qui est à la fois la diversité, les difficultés dans un certain nombre de pays par manque de moyens, mais aussi le fait que c'est une chose qui est acquise, en particulier du point de vue de l'horizon naturel pour les jeunes chercheurs, que les choses peuvent se passer à l'échelle de l'Europe. Il n'empêche qu'une fois qu'on a parlé de ça, il faut pas oublier que l'Europe, elle est dans le monde. Et que dans le monde, bien entendu, on pense tout de suite États-Unis, mais c'est peut-être un peu trop restrictif. Bien entendu, les États-Unis sont une puissance scientifique considérable. Mais maintenant, il faut surtout penser à l'Asie, en général. Et pas seulement à la Chine, d'ailleurs. Parce que des pays en Asie ont fait des progrès absolument spectaculaires. Le pays que je cite souvent, évidemment le Japon, je pourrais citer le Japon, mais c'est la Corée. La Corée du Sud est un pays qui n'avait pas de tradition scientifique, vraiment. La première thèse de mathématiques, c'est 1947. Donc, c'est-à-dire très récent. Mais maintenant, c'est un pays qui a absolument pignon sur rue, qui investit considérablement, qui lance des programmes ambitieux, etc. Donc, alors évidemment, la Chine, à cause de sa taille, à cause de des investissements qui ont été faits dans les années, de l'amélioration de la qualité, évidemment, un acteur majeur de ce monde-là. Et donc, les chercheurs européens ne peuvent pas se mettre en situation de se dire, on se ferme et puis on va faire nos petites bricoles entre nous.
Mais l'exemple de la Chine est quand même très impressionnant, Jean-Pierre Bourguignon. En 2000, 1% des papiers les plus cités étaient écrits par des Chinois et ce chiffre est passé à 20% en 2020. C'est quand même une croissance incroyable.
Oui, surtout, la chose très importante dans ce que vous avez dit, c'est pas simplement le nombre de papiers, parce que la Chine a quand même...
C'est les plus cités.
Voilà. À 1% les plus cités, donc ça veut dire a priori les papiers les plus excitants qui ont entraîné que des gens aillent les lire parce qu'ils avaient trouvé qu'ils étaient vraiment déterminants. Donc cette progression est donc pas simplement une progression volumique, c'est une progression en qualité. Et c'est ça qui est souvent caché dans le débat public à propos de comment se situe-t-on par rapport à la Chine, c'est d'oublier que aujourd'hui, dans un certain nombre de domaines, la Chine est simplement le premier pays au monde, en qualité. Et donc, c'est pas simplement donc les accusations qu'on entend régulièrement que la Chine vit
beaucoup, mais dans la qualité.
Oui, ou qu'elle vit de ce qu'elle prend aux autres. Il faut faire très attention à ce genre d'affirmations parce que toutes ces choses-là montrent que ça n'est pas la réalité.
Et prenons un exemple concret, le Covid. Est-ce que vous pensez que la pandémie a montré les atouts de la recherche européenne ou est-ce qu'au contraire, elle a pris des leçons qu'elle doit retenir pour la suite?
Alors, faire très attention là-dessus, parce que, comme vous savez, la crise du Covid est une crise très complexe, parce qu'elle a affecté les sociétés très directement. Elle a affecté très directement les processus par lesquels on prend des décisions. Et bien entendu, on a bien vu que, malgré tous les efforts, finalement, des traitements de la maladie... On n'en a pas vraiment. On a quelques-uns, mais enfin, on a amélioré la capacité de soigner les gens, mais on n'a pas vraiment trouvé de traitement. Par contre, ce qui a été radical, c'est la capacité de développer des vaccins. Alors, comme vous savez, il y a eu l'irruption dans le monde de la vaccination, de ces nouveaux types de vaccins qui étaient déjà en préparation depuis une vingtaine d'années, qui sont les vaccins à ARN messager. Et là, brusquement, ces vaccins, à cause de leur adaptabilité, à cause du fait qu'on avait déjà, on savait déjà tellement de choses sur la façon dont ils fonctionnaient, et on avait aussi développé les technologies pour les fabriquer, ces vaccins, en fait, en quelques mois, il a été possible de faire ça. Alors, au niveau de l'Europe, comme vous savez, il y en a un qui est le plus visible que les autres, qui est celui de la société BioNTech. qui s'est associé à Pfizer pour passer à la phase industrielle de fabrication. Évidemment, quand vous devez fabriquer des milliards de vaccins, c'est pas une petite start-up, même si BioNTech était un peu plus qu'une start-up qui peut faire ça. Mais comme par hasard, aux États-Unis, Moderna, qui est sur le même schéma, s'est aussi développée et s'est elle-même associée à d'autres sociétés. Et en Europe aussi, on a eu donc l'autre approche avec adénovirus, qui est une autre façon de préparer des vaccins, donc avec AstraZeneca, et qui était directement nourri des travaux des chercheurs d'Oxford. La chose que je cite toujours, évidemment, comme président de l'ERC, c'est que les deux chercheurs clés, Adam Hill pour Oxford et puis Hugo Shaheen pour BioNTech, sont des gens qui ont été lauréats de l'ERC, et directement pour des projets, pas du tout pour la Covid, mais pour les vaccins qui les intéressaient. Dans le cas de Adrian Hill, il s'intéressait à la différence de réaction des différents types ethnologiques à des vaccins, spécialement sur des populations africaines. Et dans le cas de Hugo Shaheen, c'était des travaux sur pour développer des vaccins à ARN messager pour les cancers. Mais donc vous voyez qu'on est dans le cas où c'était des chercheurs au meilleur niveau qui étaient dans ces phases de développement de ces vaccins. Bien entendu, pour passer à la phase qu'on connaît, qui finalement était pertinente pour traiter de la Covid, il a fallu changer. D'abord, regarder vraiment le problème du virus qui était disponible rapidement, mais il fallait en avoir une connaissance de son action et puis voir comment on pouvait l'inhiber, ce qui a été fait très très vite. Hein. Hugo Shaheen dit que c'est le 24 janvier 2020 qu'il a été décidé par BioNTech d'essayer de fabriquer un vaccin.
Au tout début.
Et le vaccin était disponible au mois de juin, après déjà avoir passé...
Donc ça veut dire que la vitesse avec laquelle on a pu disposer d'un vaccin est à mettre au crédit quand même de la recherche en Europe.
Ah, complètement. Pour ce vaccin-là, mais il faut pas dire que Moderna n'a pas fait ça aussi. Non, donc ça a été aussi fait aux États-Unis. Mais en tout cas, c'est la recherche en Europe financée dans la durée par la Commission européenne, par les autorités allemandes, mais aussi par les autorités des Länder où ils se trouvent, qui ont permis que de faire cette transition aussi rapide. Et puis surtout au moment de faire les tests cliniques décisifs pour avoir l'autorisation de mettre le vaccin sur le marché et puis après pour le produire, il y a eu un accompagnement remarquable par la Banque européenne d'investissement, par aussi des investisseurs allemands. Donc si vous voulez, il faut voir que pour parler de cette aventure, de la vaccination, aventure réussie, il y a beaucoup de composantes. Il y a la composante scientifique, la composante médicale, mais il y a aussi une composante industrielle, parce qu'on passe pas à des nombres qui sont pertinents pour faire la vaccination. On peut pas occulter cette dimension-là, qui est décisive, et qui là veut dire des investissements très considérables. On parle en milliards de vaccins, mais aussi en milliards d'euros.
J'avais une autre question, Jean-Pierre Bourguignon, à propos du statut des chercheurs, qui n'est pas du tout le même dans tous les pays d'Europe. Est-ce que c'est une richesse, cette diversité, ou est-ce qu'au contraire, ça rend plus difficile l'organisation d'une politique européenne de la recherche ?
Alors, si vous voulez, moi, en tant que scientifique, je n'arrête pas de dire que la chose décisive, c'est évidemment les personnes. Donc, il n'y a pas de doute que l'emploi, la façon dont on emploie les gens est une chose vraiment décisive. Et effectivement, d'un pays à l'autre en Europe, le type d'emploi offert aux gens n'est pas du tout le même. Alors, il y a peut-être deux considérations très importantes. Suivant les pays, la séparation entre le monde universitaire et le monde de la recherche peut être plus ou moins grande. Il y a des pays où elle n'existe pas, dans le cadre de la...
La recherche se fait à l'université.
Voilà, dans le cas de la Grande-Bretagne, par exemple. Et puis, dans d'autres cas, la France, c'est dans l'autre cas où il y a des organismes de recherche. Mais malgré tout, quand on regarde ces organismes de recherche, si on prend le cas du CNRS par exemple, ces unités mixtes sont presque la totalité de son action. Donc il est intégré dans le monde universitaire. Mais
c'est mixte entre organismes et puis université.
Voilà. Donc ça, c'est la première différence de statut. L'autre différence, c'est vraiment quelles sont les possibilités d'embauche offertes aux jeunes chercheurs. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une chose sur laquelle on doit vraiment réfléchir très très sérieusement. La tendance dans les dernières années a été indiscutablement d'aller vers une sorte de décalage, enfin de retard à l'embauche, aux embauches durables. Donc ça veut dire que les gens étaient de plus en plus souvent embauchés sur des emplois précaires. Certains emplois d'ailleurs, des situations postdoctorales à 1 an, à 2 ans. Et donc ça, on sait bien que comment est-il possible de développer un programme de recherche ambitieux si on doit pratiquement du jour où on est embauché commencer à envisager de trouver une autre embauche. Donc ça c'est personnellement je pense une chose à laquelle il est impératif de répondre. Dans le cas de la France, comme vous savez, on a quand même la possibilité d'être embauché comme fonctionnaire ou comme en tout cas sur un emploi stable relativement jeune, plus jeune que dans d'autres pays, même si cet âge a eu tendance à augmenter au fur et à mesure des années. Moi, je cite toujours, mais évidemment, je fais partie des privilégiés. J'étais embauché au CNRS, j'avais 21 ans. Et évidemment, c'était une période de grande expansion du CNRS, mais ça veut dire qu'on faisait confiance aux gens pour les embaucher. C'est vrai, quand j'étais embauché, j'ai pas été embauché comme fonctionnaire. J'étais seulement, à ce moment-là, les stagiaires et les attachés de recherche et chargés de recherche étaient des emplois contractuels. Mais malgré tout, cette possibilité d'avoir un emploi d'une durée significative permet de chercher des choses difficiles. Si vous avez un emploi de très courte durée, c'est pas possible que vous fassiez un projet très risqué, parce que vous risquez de vous trouver tombé à l'eau. Donc ça, c'est la deuxième dimension, cette grande diversité. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut rappeler que dans le cadre du CNRS, un tiers des embauches qui sont faites par le CNRS aujourd'hui sont des chercheurs qui ne sont pas français. Donc ça veut dire que les offres d'emploi faites par le CNRS continuent à être extrêmement attractives pour que des chercheurs viennent s'installer en France. C'est aussi pas faux au niveau des postes de maître de conférence à l'université, où beaucoup de, en tout cas dans ma discipline, les mathématiques, on continue à avoir une capacité d'attraction très significative de chercheurs qui ne sont pas français. Donc c'est circulation des gens, mais je pense que un des soucis, et c'est pour ça que je milite beaucoup, puisqu'on traverse cette crise qui a quand même un impact considérable sur la recherche en Europe, qui est la crise de la Covid, je pense que c'est très important que vite on ait une sorte de conférence pour faire le bilan de l'impact sur les carrières des jeunes chercheurs de la Covid. Pour beaucoup de chercheurs qui ont expérimentaux, ça a quand même été une période d'une grande perturbation de leur
notamment pour les thésards, hein, qui voilà, dont les travaux dépendaient des expériences qui ont été arrêtées.
Et malgré tout, du coup, le fait que beaucoup de choses doivent être retardées, prolongées, et donc je pense qu'on doit vraiment se préoccuper, parce que la crainte que j'exprime, c'est celle que les chercheurs les plus doués, ceux qui ont peut-être le plus de potentiel, peuvent se dire après tout, c'est tellement incertain que je préfère faire autre chose. Alors, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour globalement pour la société, mais malgré tout, le monde académique a quand même besoin d'avoir parmi les chercheurs les plus prometteurs qui restent pour travailler dans le monde académique au moins un certain nombre d'années. Peut-être n'y resteront-ils pas toute leur carrière, mais c'est fondamental qu'il y ait un nombre significatif d'entre eux qui décident de travailler dans le monde académique. Donc je pense que là, il y a besoin d'avoir une sorte de suivi, de s'interroger, de faire des comparaisons et de voir les perspectives qui sont offertes. Et comme vous savez, une des craintes de beaucoup de gens, c'est pas ce qu'on a constaté au niveau de l'ERC, c'est que parmi les jeunes chercheurs, ceux qui soient le plus touchés par ce phénomène sont des jeunes femmes. Or, on était dans une période de progression lente, mais réelle, de la proportion de jeunes femmes dans le monde de la recherche. Et il faudrait pas que la crise de la Covid, en particulier pour les jeunes femmes mères de famille, se traduise par un brusque décrochage. C'est pas ce qu'on a constaté dans les candidatures à l'ERC, pour lesquelles on continue à avoir une légère progression de la proportion des jeunes femmes candidates.
Mais c'est quand même un sujet d'inquiétude.
Mais peut-être que c'est juste qu'on est, et puis qu'il va y avoir une cassure après. Donc je pense que ça fait partie des choses qu'on doit surveiller de très près.
Jean-Pierre Bourguignon, quand on parle de recherche européenne, c'est un tropisme personnel. Je pense au CERN, qui est le laboratoire européen pour la physique des particules, qui est installé à Genève. Il me semble que c'est un lieu où l'Europe, qu'on voit, a de la gueule, si vous me passez l'expression. On voit que l'Europe apparaît là, non pas comme une réalité donnée, mais comme une construction humaine issue d'un geste intentionnel et institutionnel. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi le CERN n'a pas fait école? Pourquoi ce modèle n'a pas été appliqué à d'autres disciplines comme la biologie ou bien l'espace même?
Alors d'abord, c'est pas tout à fait vrai qu'il a pas fait école, parce que quand vous regardez pour la biologie, par exemple, une structure comme EMBO, European Molecular Biology Organization, ou EMBL, European Molecular Biology Laboratory, qui sont tous les deux, dont les sièges sont localisés à Heidelberg, qui sont quand même un peu de même nature, c'est-à-dire des organisations dans lesquelles différents pays se joignent leurs efforts, mettent des financements, et ces pays, d'ailleurs, même s'il y a European dans la définition, de CERN aussi, même si c'est en français plutôt qu'en anglais pour les autres. Malgré tout, il y a aussi des pays non européens qui sont partie prenante de ces organisations. Donc je pense qu'il a quand même fait école pour un certain nombre de disciplines. La difficulté fondamentale, comme vous savez, pour ces organismes, et quand les gens, je connais bien les gens qui en ont la responsabilité, comme vous savez, Maria Leptin, qui va me succéder à l'ERC, est actuellement la directrice de EMBO. La difficulté fondamentale de ces organismes, c'est que ils doivent négocier leur budget année après année, et dès qu'il y a un pays un peu important qui menace de se retirer, des angoisses très très sérieuses sur la pérennité. Si vous voulez, je pense que ces modèles ont eu un succès indiscutable, mais c'est des modèles qui supposent que on ait la certitude qu'il va y avoir des engagements à long terme qui vont être tenus et que les menaces de se retirer n'arrivent pas trop souvent par certains pays, parce que ça rend la vie épouvantable. Et surtout dans le cadre du CERN, pour lesquels les investissements qui sont sa réalité sont des investissements qui n'ont de sens que dans une durée vraiment significative. Voilà. Alors pour les projets en biologie, c'est un tout petit peu différent, mais malgré tout très très important qu'il y ait une pérennité du soutien. Alors ça, c'est pour dire que c'est un modèle possible, qui est un modèle dans lequel des pays de leur plein gré décident de devenir membres et donc de décider de s'engager pour un financement. Souvent, ça commence par le fait que le pays devient observateur, puis ensuite s'intègre et devient un membre contributeur.
Jean-Pierre Bourguignon, vous avez dit que l'important pour la recherche, c'est les personnes, mais on peut pas non plus ne pas parler du budget. Or, en 2000, je me souviens, l'Europe s'était engagée à ce que la recherche soit financée à hauteur de 3% du PIB en 2020. On est en 2021. Où est-ce qu'on en est?
Mais justement, ça fait partie des énormes déceptions, mais c'est même pire que ça. Je vais dire un peu plus pourquoi je pense que c'est pire que ça. D'abord, donc, on n'est pas arrivé à ça. D'abord, il faut faire très attention.
En France, on est à 2,2.
Voilà, en moyenne pour l'Europe. Alors, comme vous savez, là, on retombe sur la diversité que j'ai déjà évoquée des niveaux de financement d'un pays à l'autre. Un certain nombre de pays sont au-delà des 3%. Typiquement les pays du nord de l'Europe. L'Allemagne aussi a dépassé maintenant 3%. En route vers 3,5% et peut-être même un peu plus. Mais il y a encore des pays qui sont à 1%. La France est juste à la moyenne, en gros à 2,2%. Mais il faut faire très attention que ce montant représente à la fois la recherche publique et la recherche privée. Et là, c'est pareil, d'un pays à l'autre, le poids que représente la recherche privée varie beaucoup. Il y a un certain nombre de pays très développés dans lesquels la recherche privée contribue beaucoup. C'est le cas de la Grande-Bretagne, par exemple, ou de l'Allemagne. La France est un petit peu moins bien lotie, malgré le crédit impôt recherche, qui, comme vous savez, est quand même un soutien très très considérable en volume, en encouragement à ce que les industriels investissent en recherche. Donc la situation aujourd'hui donc est une grande déception, c'est-à-dire que l'objectif n'a pas été atteint. De nouveau, il y a un pacte pour la recherche et l'innovation qui est en train d'être discuté, qui devrait être approuvé à la fin de l'année, dans lequel on redonne pour 2030 de nouveau 3%. Cet objectif de 3%. Donc quand même, 10 ans de retard, c'est beaucoup, au moment où la Chine continue à cavalcader avec des investissements considérables. La Chine aujourd'hui augmente son investissement en recherche fondamentale de 7% par an. C'est ça la réalité de la compétition. Mmh. Et les Américains, comme vous savez, viennent de lancer un gigantesque programme d'investissement qui peut-être va changer un peu la nature de la NSF, mais on parle de 100 milliards sur 10 ans, donc pas du tout une somme négligeable. Le budget de la NSF aujourd'hui est quand même de 8 milliards de dollars par an, et le budget de NIH, qui couvre les recherches en santé, comme vous savez, est au-delà de 30 milliards de dollars. Donc, si vous voulez, ça, c'est quand même une réalité pour laquelle... Alors, pourquoi je disais que c'est pire que ça? C'est quand même, quand il y a eu cette discussion très difficile en juillet de l'année dernière pour décider de l'accord budgétaire pour 7 ans, le programme, un des programmes qui était le plus coupé par les chefs d'État et de gouvernement, ça a été Horizon Europe, c'est-à-dire le programme cadre pour le soutien à la recherche et à l'innovation. Moins 15%, c'était ça qui est sorti du mois de juillet. Et il a fallu une bagarre épique par le Parlement, auquel les chercheurs ont contribué, bien entendu, pour arriver à redresser un peu, puisque ce qui avait
été enlevé à Horizon... Mais cette bagarre a été un succès, je crois.
Oui, c'est-à-dire, on avait enlevé 13,5 milliards, on est arrivé à en remettre 4. Donc voilà ce qu'on appelle un succès. Et c'est vrai que c'est un succès, parce que c'était pas gagné du tout qu'il y ait ces 4 milliards, parce que un certain nombre de pays étaient farouches dans l'idée de ne pas remettre d'argent dans cette chose. Donc vous voyez que au moment où on constate cette incapacité à atteindre un objectif qu'on s'est donné il y a longtemps, et qu'on se redonne pour 2030, on a quand même en route... encore eu un accro très significatif. Et personnellement, je n'arrive pas à comprendre.
Jean-Pierre Bouillon, malheureusement, notre conversation va bientôt se terminer. J'ai deux questions. La première, c'est comment expliquez-vous que la recherche ne fasse pas partie des discussions, des débats électoraux, notamment à l'occasion des élections européennes? Pourquoi est-ce que ça n'intéresse pas les politiques? Pourquoi est-ce que ça ne semble pas intéresser le public? Et dans un texte que vous avez écrit, je crois, pour les élèves de l'ENA,
oui.
Vous dites, le principal obstacle à une compréhension adéquate de ces mécanismes de la recherche semble être la faible acculturation scientifique de nombre de décideurs politiques. Mais, ça on l'entend souvent, mais est-ce qu'on pourrait pas inverser le problème et en disant d'où vient que les scientifiques ne fassent pas de politique?
Bah écoutez, d'abord, comme vous savez, être scientifique, c'est un travail à temps complet, d'une certaine façon, et un certain nombre qui ont fait le saut, comme vous savez, je connais très bien Cédric Villani, puisque nous sommes mathématiciens tous les deux, et y compris dans son livre dans lequel il explique son immersion, il me cite comme lui conseillant de ne pas faire ce saut, donc voilà, vous me prenez en flagrant délit de saper l'objectif que j'essaye de donner. Donc je pense qu'il y a vraiment un travail de fond, mais dans lequel je pense que les scientifiques, mais aussi les médias, ont un rôle à jouer déterminant, qui est de donner une place réelle à expliquer comment la recherche fonctionne. La difficulté, c'est que la recherche ne fonctionne pas immédiatement. Et donc, il faut comprendre que ces investissements, dont la crise de la Covid nous a montré la valeur et le caractère irremplaçable, il faut accepter ces investissements. Et pour comprendre pourquoi ils sont essentiels, il faut comprendre comment ils fonctionnent.
Les politiques inventent même parfois des concepts mathématiques. Par exemple, ils savent ce que veut dire inverser une courbe. Chose que les mathématiciens ne savent pas faire. Ils manient parfois l'exponentielle d'une façon très curieuse.
Oui. Vous savez, il faut se méfier beaucoup des exponentielles, parce que quand on y est confronté à une exponentielle, comme ça a été le cas pour la pandémie, les effets sont très très vite ravageurs.
Merci en tout cas Jean-Pierre Bourguignon d'être venu à cette première de Science en Question. J'ai oublié de dire que vous étiez polytechnicien. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase de Clémenceau qui disait les polytechniciens savent tout mais rien d'autre. Vous venez de démontrer que sur ce point, au moins, il se trompait. Merci à vous d'être venu.
Merci pour l'invitation et pour dire que récemment, j'ai fait une longue interview pour Science et Avenir, qui est disponible sur leur site, dans lequel j'essaye justement de traiter cette question de la nécessité de mieux comprendre la recherche pour la population générale et les hommes politiques et les femmes politiques en particulier.
Merci à vous, c'était Science en Question par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Ludovic Augier et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. Je les remercie tous. We'll be right back.
France Culture, l'esprit d'ouverture.